Nous sommes le jeudi 24 avril, il est 21h et des poussières sur Radio Canu 102.2. Bienvenue dans le nerf de la game. Le nerf de la game, l'émission qui aborde le monde du jeu vidéo par sa face alternative. Chaque semaine, ou presque, vous retrouverez ici un cocktail d'actualité sur les rouages de l'industrie du jeu vidéo et sur les titres qui attisent la curiosité, surtout du côté indépendant du paysage vidéoludique. Bonsoir Romain.
Salut Xavier.
Comment vas-tu ?
Écoute, ça s'est très bien passé, ce lancement s'est fait comme sur des roulettes.
Je t'ai toujours surnommé le roi de la technique et je vois que ce surnom te va à... merveille.
La fluidité.
Je pense que ce qui caractérise encore plus ta performance, c'est le fait que tu es encore meilleur devant un public, et on a un public aujourd'hui.
Wow. Tout à fait, on a quelqu'un qui nous fait l'honneur de nous rejoindre.
Je suis le public.
Voilà. Bonjour public.
Bonjour.
On a le plaisir de recevoir Bettina de QuickTime Events. Comment vas-tu ?
Ça va, ça va.
Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Si on t'a prié de venir nous voir dans le nerf de la game aujourd'hui, c'est pour parler d'un événement qui aura lieu le 10 mai 2025 qui s'appelle l'Indie Game Lyon 6e édition.
Déjà.
Et oui, qui aura lieu donc au CCVA de Villeurbanne, qui est donc cours Émile Zola. Le métro plus proche c'est Flachey, hein, c'est Flachey. Bien ça, Flachey. Et si vous voulez y aller, sachez que le prix est libre, c'est-à-dire que quand on dit prix libre, c'est pas 0€, c'est vous mettez ce que vous voulez, c'est au moins un peu de sous.
Mais oui. Si,
voilà.
Après, personne n'est obligé de donner de l'argent, c'est juste que ça sert à l'association et ça sert à l'organisation de l'événement, donc ça fait plaisir. Après, voilà, si vraiment les gens veulent mettre 0€, ça se comprend, c'est le jeu du prix libre.
C'est vrai.
Et ce sera le 10 mai.
Oui.
Tu l'as pas dit.
Si.
Je crois pas.
En fait, non, mais j'ai l'habitude que tu m'écoutes plus. Tu vois,
non.
Bettina, elle m'écoute.
Il l'a dit.
Est-ce que t'as envie de co-animer une émission
avec moi ? Est-ce que tu t'y connais en technique ?
Parce que ah non, par contre.
J'ai l'impression...
Mais je te rassure, moi non plus.
Ah bon ? Bon, bah ça va alors.
Coup, j'ai l'impression bon. Qu'on est en train d'assister aujourd'hui à une connexion qui se défait.
Ça a commencé l'autre jour.
Ça a
commencé l'autre jour quand on a fait une première présentation de ce qu'on va pouvoir retrouver à l'Indie Game Lyon, mais on en reparlera.
Effectivement, l'Indie Game Lyon, c'est quoi ? C'est un événement qui fait la promotion du jeu vidéo indépendant, et en particulier dans la région lyonnaise. Un événement qui a lieu déjà depuis 2019.
Oui.
Première édition en 2019, à laquelle on était déjà présent. En tout cas, moi, j'y étais.
Il me semble aussi.
Voilà. c'est dans le cadre fort sympathique et champêtre de la MJC, mon plaisir.
Oui.
Voilà. Et c'est un événement où déjà dès la première, on avait des exposants qui présentaient des jeux vidéo et ainsi que différentes animations et des tables rondes sur des sujets d'actualité ou des sujets de l'industrie du jeu vidéo et de la production de jeux vidéo de manière générale. Et tu es d'accord avec moi, Bettina, toujours sur la même démarche aujourd'hui.
Tout à fait. La formule reste inchangée jusqu'à présent et je pense pas qu'elle change.
Est-ce que tu préfères quoi ? Qu'on parle du programme tout de suite ou que on détaille le magnifique stream qui a eu lieu samedi ?
Alors, moi je commencerai par une question que je suis pas certain qu'on avait posée parce qu'on t'a déjà reçu ici pour les deux précédentes éditions. Je suis pas certain qu'on t'ait posé la question comme ça. Au final, pourquoi est-ce que l'Indie Game Lyon existe ?
Oui, alors moi je répète sans cesse cette histoire, du coup j'ai l'impression que tout le monde la connaît, mais peut-être on n'en a pas parlé ici. En fait, la petite histoire, c'est que moi je suis graphiste multimédia, je voulais à la base travailler dans le milieu du jeu vidéo. Spoiler, je n'ai pas réussi, en tout cas pas directement, pas en tant que graphiste, bref, j'ai pas réussi à me faire embaucher. Mais depuis plusieurs années maintenant, depuis que je suis à Lyon, je développe mon réseau professionnel du jeu vidéo sur Lyon, en fait, et je fais partie de l'association Lyon Game Dev, que vous devez connaître. Et en parallèle de ça, depuis 8 ou 9 ans, je fais de l'événementiel dans une association. Et en fait, à chaque fois, à Lyon Game Dev, je voyais des présentations de projets que je trouvais vraiment hyper cool, mais ça sortait jamais de cette bulle, ça sortait jamais de ce petit réseautage. Et je me suis dit, je sais faire de l'événementiel, moi. Donc, boum, j'ai créé un événement pour les mettre en avant. Et voilà.
Et ramener du public extérieur, justement, à cette bulle dont tu parles.
C'est ça. L'essence de Indie Game Lyon, c'est vraiment mettre en avant les indépendants qui n'ont pas forcément les moyens de le faire. Voilà. C'est pour ça qu'on aime avoir des très très indés aussi. Il y a un petit peu de tout, on essaye de montrer un peu tout l'éventail, mais on a vraiment des solo devs parce que voilà, on sait qu'ils auraient du mal à se rendre visibles solo, quoi.
Donc c'est une volonté finalement de conserver un minimum d'espace pour eux aussi,
oui,
dans le spectre entier des différentes, on va dire, des différentes ambitions, des différents moyens, des studios qui peuvent être présents aux différents Indie Game Lyon.
Quand on parle d'indé, j'imagine que forcément on n'aura pas une démonstration du dernier Assassin's Creed Shadows. Mais justement, toi, comment tu vas définir l'indé? Comment tu vas faire ce choix? Est-ce que tu as des critères particuliers pour dire que ça, c'est trop gros déjà pour être indé? Ou justement, non, il n'y a pas de... Tant que ce n'est pas dans les énormes EA, Ubi, etc., tu peux prendre.
Et est-ce qu'il y a effectivement la présence d'un éditeur de jeux indé est un critère à prendre en compte ou pas? C'est le cas de certains.
C'est une vaste question à laquelle j'ai pas de réponse. Qu'est-ce qu'un jeu indépendant ? Il n'y a pas une définition très précise, puisqu'il y a quelques années de ça, il y a peut-être 10 ans, on aurait dit qu'un indépendant, c'est quelqu'un qui s'auto-édite. Enfin, c'est un jeu qui s'auto-édite. Mmh. Et aujourd'hui, non, ça n'a plus de sens, parce que justement, il y a des éditeurs spécialisés dans les jeux indés. Moi, je trouve pas que avoir un éditeur, c'est ne plus être indépendant. Mais après, voilà, dans notre cas à nous, du côté des candidatures qu'on a reçues, on s'est jamais posé la question de il y a tel studio, on n'est pas sûr qu'il soit indé. C'est jamais arrivé. Donc j'y ai pas réfléchi davantage.
C'est vrai que la question est... Enfin, j'allais dire, la question est vaste et la question est aussi, au final, assez... Elle peut être restreinte assez facilement en se disant, en gros, si t'es pas dans une des grosses majors, on peut considérer que tu fais partie des indés. C'est d'ailleurs la définition qui est donnée par un showcase comme le Triple I Initiative, qui se dit globalement, on n'est pas dans les très très gros, mais on a quand même assez d'argent pour faire des opérations marketing très conséquentes. On est indé. Donc c'est pour ça que c'est en gros, on peut se triturer la tête ou ne pas le faire comme certains le font.
Par exemple, je rebondis, mais quand j'avais joué It Takes Two il y a quelques temps, j'avais écrit une petite review sur Instagram pour en parler, parce que je fais ça aussi quand j'ai le temps, et moi je le considère comme un jeu indé, et on m'avait dit dans mon entourage, on m'avait répondu, notamment un certain Scud, n'est-ce pas, qui m'avait dit non, c'est pas indé parce que c'est édité par EA. Ouais, mais le studio Azalite se considère comme indépendant. Ils le disent, ils se considèrent comme un studio indépendant. Alors certes, ils sont édités par EA, mais du coup...
C'est toujours un peu particulier, le fait d'être, quand t'es édité, même par un très gros, etc., c'est comme... Des fois, il y a des jeux qui sont indés, mais qui sont distribués par des très très gros, où ça peut être un peu particulier aussi. Donc,
tu parlais du Triple I, il y avait l'année dernière, première édition du Triple I, il y avait des jeux Rock, Prince of Persia.
Il y avait des jeux Ubi.
Édités par Ubisoft. Ouais. Voilà. Mais du coup, plus pour revenir du coup sur l'événement lui-même, et je crois qu'on avait posé la question par contre l'année dernière sur finalement comment se passe le choix, et qui vient, c'est toi qui vas chercher, c'est eux qui te proposent, comment est-ce que la sélection finalement se passe, et est-ce qu'il y a des évolutions à ce niveau-là ?
L'évolution, c'est que pour les premières éditions, forcément, j'avais fait de la prospection. Et à l'époque, avec mon binôme Adrien, qui était là pour les deux premières éditions, trois premières, je ne sais plus, on avait fait pas mal de prospections tous les deux. Et puis, bah, d'année en année, l'événement gagne sa petite notoriété dans le milieu indé. Et du coup, là, ça fait 2 ans que je ne prospecte plus du tout. Et cette année, on a reçu 60 de candidatures pour 34 places. Donc je n'ai vraiment pas besoin d'aller les chercher. Alors, si la prospection que je fais... je vais la faire quand je tombe sur c'est plus sur les projets vraiment locaux, quand une école va présenter des projets étudiants, je ne vais pas la citer, l'école en question, mais j'en ai une en particulier en tête où je vais assister aux présentations. Si le projet me tape dans l'œil, je vais aller les voir et je vais aller leur en parler, enfin parler de l'événement. Et puis toujours auprès de Lyon Game Dev aussi. Dans les meet-up, quand il y a des présentations de projets, bah, pareil, je vais aller, quand le projet, que je trouve qu'il a vraiment un potentiel, je vais aller le chercher et lui dire, bah, au fait, est-ce que tu connais l'événement, tu pourras candidater, machin, machin. Mais ça reste, c'est tout ce que je fais.
Okay. 60, c'est le plus que tu as reçu parmi sur les 6 dernières éditions.
Oui. Okay. Et c'est vrai que le choix est difficile, donc je vais vraiment pas aller en chercher d'autres, sauf si gros coup de cœur ou je ne sais quoi. Mais enfin là, 60, ça a été dur de choisir qui est-ce qu'on garde à la fin, quoi. Mmh. Vraiment. Et du coup, pour rebondir à la deuxième partie de la question, comment
t'as
ça se passe?
T'as quand même viré Hades 2, hein, du panel. Non, ouais. Mais je comprends, hein, mais ouais.
Non, mais
c'est
pas
très local, mais.
C'est pour ça.
C'était l'unique raison.
Comment se passe la sélection? Bah, on essaye juste d'avoir un éventail le plus large possible de ce que peut être le jeu vidéo. Donc, on va choisir des genres différents, avec des moteurs différents, avec des spécificités techniques différentes, de la 2D, de la 3D. Là, on a à nouveau un jeu en VR. Mmh. Et puis, ouais, voilà, essayer d'avoir le plus de variété possible. On essaye d'avoir différentes étapes de production aussi. Là, cette année, je crois qu'ils sont tous toujours en développement. Il n'y en a aucun qui est released aujourd'hui, je crois pas.
J'en ai pas vu, personne.
Ouais. J'en ai un en tête, mais okay. Qu'on avait vu dans la liste, bah, notamment Socobots, en fait.
Ah oui,
qui est sorti en début de semaine.
C'est vrai, oui. Ah, voilà.
C'est un exemple.
Oui,
c'est
hyper récent.
Ah, c'est hyper récent.
il laisse rien passer, c'est horrible.
Écoute. voilà.
Mais du coup, ouais, ils sont soit ils approchent de la release et du coup ils sont plus en démarche
promotionnelle,
tout à fait. Soit ils sont toujours en cours de développement. Mais on prend aussi des projets qui sont très très early, très très tôt dans leur développement. Enfin voilà, on essaye d'avoir un peu de tout.
C'est un petit peu ce qu'on avait constaté effectivement quand on avait fait la liste. Il y en a certains, finalement, on n'avait même quasiment rien trouvé sur eux en ligne parce que c'était, comme tu le dis, très tôt dans le développement.
C'est ça.
Donc,
Et après, quand c'est des projets, quand c'est des équipes ou des studios que je connais, du coup, c'est plus facile aussi de les sélectionner quand ils sont très tôt dans leur développement parce que bah, justement, j'ai davantage d'informations. Quand c'est des projets du coin que je vois évoluer, c'est plus facile aussi. Je pense notamment à Stardream, je m'en rappelle, on en avait parlé.
J'allais en parler dessus là parce que. Petit coup de cœur, en tout cas esthétique.
Ouais.
Et moi qui suis très jeu narratif, etc., il y a,
bah, du
y a
coup,
quelque chose. Hein.
Je connais bien l'équipe. Mais d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que je ne fais pas forcément les liens entre les noms des studios et tout. Enfin, en plus, bah, comme j'ai dit, on en a reçu 60. Du coup, pendant toute l'étape où on faisait notre sélection, donc nous, idéalement, on souhaite pouvoir les tester directement. C'est plus facile pour se faire un avis. Mais à défaut, on accepte aussi d'avoir juste des vidéos de gameplay, et ça peut nous suffire à nous faire un avis, mais on veut vraiment y jouer parce qu'on fait attention à ce qu'il n'y ait pas de propos offensants,
bien
notamment.
Sûr.
Donc c'est pour ça qu'on tient vraiment à y jouer. Mais bon, dans certains cas, on n'y joue pas. Et j'avais mis Stardream de côté pendant un bon moment, en mode ça a l'air cool, mais on n'a qu'une vidéo, on n'a qu'un trailer... on n'a pas vu le jeu directement, on sait pas et tout. Et donc j'avais un peu insisté, je leur avais demandé une vidéo de gameplay, on l'a vue, mais effectivement elle était très très early, c'était vraiment des placeholders de partout. Donc on se rendait pas trop compte. Et puis bref, un événement, c'était Sauf qui peut la vie aux subsistances, il y a quelques mois. Je rencontre les copains, on discute, et là en fait, je comprends que bah, c'est eux les devs qui ont proposé le jeu. Et je dis, ah putain, mais j'avais pas tilté que c'était vous en fait. Ah bon, bah c'est bon du coup, parce que je connaissais déjà le projet en fait, mais j'avais pas fait le lien parce que j'avais pas mémorisé les noms. Donc forcément, ça aide de se connaître. C'est pour ça qu'on a plus de facilité à sélectionner des projets locaux.
Et ça donne du sens au nom, à l'indie game Lyon.
Oui, aussi. Oui.
Justement, pour parler des jeux, il y a certains... alors, on ne va pas tous les citer parce que justement, on n'a qu'une heure d'émission. parce qu'il y en a un sacré paquet. Je voulais en parler de certains en particulier. Certains qui vont provoquer notamment, je pense, une rage assez intense chez ceux qui vont jouer. Un qui s'appelle Epic Musical Chairs, qui, comme son nom l'indique, est un jeu de chaises musicales.
Epic.
Et je pense qu'il va provoquer de la rage. J'ai très hâte d'y jouer avec certaines personnes.
Oui. Effectivement, c'est, je crois que c'est du versus à 4 en mode déconne.
Et je pense que voilà, ça fait partie
des choses. En mode détente, quoi. Enfin, vraiment.
On va pas parler de Socobots. Le mieux, c'est que vous voyez le stream.
Oui. Cette magnifique démonstration.
Cette démonstration de skill.
Et pas seulement, mais de coopération également entre toi et moi.
C'est ça.
Je pense que voilà.
Certaines communications.
On sent qu'on travaille ensemble depuis un moment. Enfin, voilà. Les trucs basiques du genre fais ça ou va par là, ça marchait même pas. Enfin bref.
C'est... Ma phrase préférée, c'est j'ai fait mon boulot, fais le tien.
Mais ça, c'est ta phrase préférée dans n'importe quelle situation.
C'est fou, ça.
Même c'est au boulot, même. Enfin bref. C'est...
Non, mais voilà. Je voulais juste parler de deux autres jeux à part ces jeux-là. T'as déjà parlé de Stardream. Deux jeux qui m'avaient vraiment marqué dans leur présentation. Un premier qui s'appelle Mura.
Enfin, moi, je dis Mura.
D'accord, Mura, qui est en fait un city builder qui sur Discord, c'est bien ça.
Ouais. Un truc coopératif sur Discord,
Tu peux un peu nous parler du principe?
C'est très simple en fait. C'est un petit jeu qu'on met en place sur un serveur Discord. Et après, chaque personne... alors, il faut taper une petite ligne de commande Discord. Mais il y a le tuto qui va avec le jeu, donc tout est expliqué. C'est vraiment très simple. Et on récolte des ressources tous les jours, peut-être plusieurs fois par jour. On peut récolter des ressources plusieurs fois par jour, tout à fait. Et à partir de ça, on peut construire des bâtiments, construire un petit village en fait, et c'est un truc communautaire qu'on fait avec les différentes personnes qui sont sur le serveur. Et tous les jours, on peut débloquer. En fait, on a des œufs, et dans les œufs, il y a des petits animaux de compagnie mignons. Voilà. Qui nous aident à récolter davantage de ressources.
Je trouve que il y a un côté réminiscent des jeux sur navigateur qu'il y avait eu notamment dans milieu des années 2000.
Je pense à Horde direct en fait.
Je pense à Ogame, mais pas dans le genre, mais plus sur le côté aussi très communautaire de la chose, etc.
Horde est beaucoup plus construit autour de la communauté.
Bien sûr.
Ogame, t'es dans la versus, mais je comprends l'idée.
Ouais. Ouais.
Et l'autre jeu dont je voulais parler, c'est un jeu qui s'appelle Beat Badger Street.
Oui.
Oui. Qu'on n'a pas pris le temps d'essayer en stream.
Ouais.
Et alors que faisait partie de la liste de ce qu'on voulait faire.
Et rien que la présentation m'a glacé, personnel. Et en fait, j'ai vu que c'était le seul jeu de la liste qui était présenté comme un serious game.
Oui. Ouais. Oui, en fait, c'est un jeu qui est davantage un objet de sensibilisation, un outil de sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles.
Au harcèlement de rue, notamment.
Notamment, mais aussi au harcèlement au travail.
Oui.
Donc, en fait, pour le présenter rapidement, on incarne une femme qui doit partir au travail, donc elle se prépare, on l'accompagne pas forcément dans sa préparation, mais on choisit sa tenue. Bon, spoiler alerte, le choix de la tenue n'a aucun impact sur ce qui va se passer ensuite.
C'est une information, enfin c'est une façon très très intéressante de le rappeler.
Oui. Et donc après, on fait le parcours de chez elle jusqu'à son travail. Et le but, c'est de surveiller sa jauge de stress, parce que si la jauge de stress arrive au max, elle s'évanouit et donc c'est un game over. Et en fait, elle va se faire harceler par des badgers, donc des blaireaux, tout au long de son trajet. Il y a une séquence dans le métro aussi, et puis elle arrive au travail, et au travail aussi. En fait, elle, en parallèle de tout ça, elle se fait harceler sur son téléphone portable par des messages de son patron. Donc voilà, c'est très oppressant. Alors ce jeu, pour la petite histoire, il a fait débat quand on a fait la sélection des jeux, parce que c'est pas un jeu fun. Du coup, ça a fait débat entre nous, parce que alors, comme objet de sensibilisation, il est vraiment top. Mais voilà, on se demandait, en tout cas certaines se demandaient, est-ce qu'on va vraiment le prendre, parce que le jeu est désagréable à jouer, mais c'est tout le propos du jeu. Vraiment, on passe pas un bon moment, on se fait harceler en permanence, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait d'un jeu dans lequel on ne s'amuse pas?
C'est vrai que c'est intéressant qu'il soit, que vous ayez fait le choix effectivement de l'intégrer. Je ne sais pas, c'est une question que vous étiez déjà posée sur les éditions précédentes. Est-ce qu'il y avait des propositions, on va dire, qui vous ont amené au même questionnement interne ?
Non, parce que c'était pas des jeux avec un message ou avec une volonté de
faire ressentir
sur un sujet particulier.
Et du coup, d'avoir un gameplay qui le fait.
C'est vrai que là, c'est vrai que inconsciemment je pensais à un jeu, je crois que de 2020, qui était The Invisible Hand, qui était un jeu qui avait un message aussi, mais qui le faisait passer de façon plus satirique déjà.
C'est ça.
Donc, et qui en plus avait des mécaniques de gameplay où tu pouvais se dire, je me fous du fond, je me concentre sur le gameplay et je peux trouver quelque chose pour moi, tu vois.
Voilà, c'est ça. Tandis que là, Big Badger Street est vraiment, j'insiste. Enfin, après, peut-être que je suis particulièrement sensible aussi parce que je suis une femme. Mais oui, on ne s'amuse pas puisqu'on est sans cesse arrêté dans la rue par des relous qui nous disent des absurdités ou des obscénités. Et donc, on passe un mauvais moment, vraiment.
Ouais. Il n'y a pas eu la volonté, finalement, de passer ce message à travers du jeu fun, comme tu le disais pour The Invisible Hand.
Ouais.
Et peut-être que c'est peut-être la meilleure façon, finalement, de passer ce message-là. Je ne me rends pas forcément compte non plus. Mais c'est intéressant aussi que tu parlais de Serious Game. Je pense que c'est quand même intéressant aussi que vous ayez fait le choix de proposer un Serious Game en tant que tel, et pas effectivement un jeu où on fait une vraie activité, un vrai métier, sous le couvert d'un gameplay avec le côté fun qu'il peut y avoir aussi.
Oui, bah après,
c'est intéressant que ce soit présent aussi dans ce genre d'événement.
Oui. Ah ouais.
Oui, enfin, c'est vrai que c'est aussi le jeu indé dans toutes ses formes.
Tout à fait.
Il y a, enfin, j'ai déjà dit à nombreuses reprises comment j'étais très admiratif d'un jeu comme The Wreck, et je dirais jamais que c'est un jeu fun. Genre jamais, jamais, parce qu'il est pas fun du tout. Ouais. Mais c'est un super.
Mais il a quelque chose à dire.
Mais c'est un super jeu quand même. Donc c'est le côté le fun pour moi n'est pas l'obligation. Enfin, c'est un large débat. Mais pour moi, le fun c'est pas obligatoire dans le fait de proposer un jeu vidéo.
Je pense qu'effectivement, ni toi ni moi, on est choqués par le choix effectivement, de ne pas proposer un jeu fun. Et je pense que justement, c'est d'autant plus intéressant qu'il soit présent dans ce genre d'événement, je pense. Bon, c'est mon ressenti, en tout cas, en voyant la liste globale de ce qui est des choix que vous avez faits.
Et donc, ça fait, voilà, que ce soit Big Badger Street, Socobot, Mura, Epic Musical Chair, Stardream, ou même des jeux qu'on a déjà vus, comme Dolos qui revient cette année, qu'on avait quitté l'année dernière.
À la limite du Serious Game également, un petit peu, dans son propos.
Oui. Après, un peu comme justement les jeux dont il est inspiré, type Orwell ou Paper Please, il y a un côté très mécanique qui c'est très gamifié. Mais oui, il y a forcément un propos derrière. Un jeu qu'on n'avait pas vu depuis un petit bout de temps, Vanova Stories.
C'était pas l'année dernière,
non, c'était il y a deux ans. Ouais.
Okay.
C'était il y a deux ans et il était très early à ce moment-là. Il n'y avait que les principes, entre guillemets. Je suis assez curieux de voir ce que ça va donner parce que c'est un jeu d'enquête en coop. Quoi. En gros, c'est comme une murder party, mais avec plusieurs joueurs. Et ça peut être vraiment très intéressant selon comment c'est implémenté. Donc,
on peut jouer jusqu'à 4, je crois.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et oui, ils prévoient de le sortir en 2025, donc ils approchent de la release, il me semble.
On en avait déjà parlé, je crois, mais effectivement, qu'est-ce qui fait que tu choisis de faire revenir des jeux qui ont déjà été présents? Et est-ce que tu as une limite par rapport à ça, des jeux qui sont venus plusieurs fois ou comment ça peut
Alors oui, On a une limite qui est jamais plus de deux fois consécutive. Donc, si un jeu qui est venu l'année dernière recandidate, moi, je vais leur écrire en leur disant « Attention, vous êtes venu l'année dernière. Si vous revenez cette année, vous ne pouvez pas revenir l'année prochaine. » Donc, je les préviens. Et en général, bah, en tout cas, là, cette année, on en a un certain nombre qui sont déjà venus l'année dernière. Alors, je ne sais plus exactement, je crois qu'ils sont 8.
Il y a Randomize aussi.
Ouais.
Il y a Lifelong.
C'est pas négligeable. Ils sont assez nombreux à être venus l'année dernière et à revenir cette année. Mais en fait, ils m'ont tous répondu on prévoit de sortir le jeu en 2025. Donc, on sait que l'année prochaine, on ne reviendra pas avec ce jeu-là. On viendra avec autre chose. Donc, ça a du sens pour eux de le présenter à ce moment-là.
Bien sûr.
Et comme on sait à quel stade de développement ils étaient l'année dernière, vu que là ils approchent de la sortie, c'est intéressant de voir l'évolution. Donc on les prend avec plaisir, justement pour
les accompagner jusqu'à la sortie, en fait.
Voilà.
Il n'y a pas que le jeu dans la vie. Il y a aussi les animations, les tables rondes.
Oui.
Oui.
Parce que c'est, selon moi, alors je sais pas pour toi, mais selon moi, c'est quand même bien une grosse partie de l'intérêt aussi de cet événement. Oui. Parce que, entre guillemets, comme on l'a vu aussi pendant le stream qu'on a fait, entre guillemets, des jeux vidéo, des fois, il y a certains jeux vidéo, on se dit, c'est peut-être plus simple de les essayer chez soi que dans une grande salle, ouais, etc., pour certains jeux. Mais par contre, ce genre de les tables rondes, les animations, les conférences qu'il peut y avoir, c'est des choses, des événements en fait où ben en fait t'es même si je sais que l'organisation les filme et les enregistre, c'est quand même le côté interaction, le fait de pouvoir aussi interagir avec les personnes qui sont en train de débattre et de discuter, c'est quelque chose qui fait vraiment aussi l'intérêt de l'Indie Game.
Bien sûr, oui, c'est une vraie plus-value en tant que simple participant, simple visiteur, en fait.
Oui, ça a toujours fait partie de notre volonté avec cet événement. C'est que, certes, il y a les développeurs, développeuses qui font des sortes de playtests. Enfin, c'est nous qui proposons une sorte de playtest géant de leur jeu. Mais en parallèle de ça, on tient à avoir ces tables rondes et ces conférences pour plusieurs raisons. C'est l'occasion de parler de l'envers du décor aussi, de parler de certains métiers, de certains aspects techniques, de parler de sujets de recherche, carrément, autour du jeu vidéo. Enfin, vraiment pousser les réflexions au-delà du simple fait de jouer.
Des sujets connexes aussi, qui à première vue sont pas forcément reliés uniquement au jeu vidéo, mais le jeu vidéo étant un média, étant un art, étant une industrie, il y a des choses en fait qui viennent pas, on le relie pas à la base au jeu vidéo, mais en fait, comme ça, ce jeu vidéo a le grand mérite d'être tout ce que je viens d'exprimer à la fois. Donc forcément, en fait, il y a beaucoup de sujets à explorer.
C'est ça.
Dans ce que tu viens de dire, il y a clairement la table ronde sur l'accessibilité, moi, qui me vient tout de suite en tête. Enfin, c'est un domaine global, finalement, et qui est aussi une question que le jeu vidéo se doit de penser, pour simplement en termes d'ouverture à un public le plus large possible.
Oui, oui.
Aussi.
Clairement, de toute façon, là, je vais pas... disclaimer total, c'est la table ronde que j'ai en plus. Vu que je suis quand je suis pas en train de parler dans un micro, ben je fais de l'accessibilité numérique. Donc forcément, ouais, j'attends beaucoup beaucoup. Et d'ailleurs, je tiens à te remercier d'avoir fait un plateau pareil, parce que c'est toujours intéressant. Moi, je suis plus sur la partie web et mobile, mais pas le jeu vidéo. Et c'est pour ça que j'ai au final peu de compétences sur l'accessibilité jeu vidéo en soi. Et il y a des choses super qui se font entre la Game Accessibility Initiative. Il y a beaucoup beaucoup de choses qui se font, et c'est bien de voir que ça soit chez les indés et chez les très gros, que ça soit au niveau du jeu vidéo, c'est-à-dire du logiciel, mais aussi au niveau des manettes, des contrôleurs, etc., qu'il y a énormément de choses qui se font. Et que malheureusement, avec ce qui se passe aux États-Unis, il risque d'avoir un gros frein là-dessus, parce que DI, tu vois.
Oui, oui, parce que DI, on pense à certaines choses, mais
ouais, voilà. Et donc, ça, donc voilà. Donc je serai au premier rang et je vais boire les paroles de tous les gens qui seront en face pour cette table ronde. Mais il n'y a pas que cette table ronde-là. Il y a notamment la table ronde sur travailler dans le jeu vidéo, changer l'industrie de l'intérieur. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette première table ronde ?
Ouais. Donc ça fait un moment maintenant qu'on invite le STJV à participer à l'événement. Ils prennent un stand pour pouvoir échanger avec les gens... avec les gens qui viennent sur le salon. Le STJV, c'est le syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo. Et donc là, j'avais envie de les faire participer à une table ronde. Donc on a pensé une table ronde pour faire intervenir le STJV. Donc on s'est dit, on va directement parler de ce que c'est que de travailler dans cette industrie. Et alors en plus... l'actualité d'un point de vue des travailleurs et travailleuses est catastrophique en ce moment.
Je trouve tes commentaires un petit peu vite fait quand même, parce
un petit
que
peu
moi,
véhément.
Moi je trouve que tout va bien dans l'industrie. Ouais. Hein.
C'est pas du tout de ça dont on parle dans cette émission depuis le début de l'année.
C'est pas du tout que la tagline de l'émission c'est jeux vidéo indé, gros sous et lutte sociale.
Pas du tout. Voilà. T'étais pas du tout présent à la dernière marche.
Ah oui, à la grève qui a eu lieu en février dernier. J'étais pas du tout sur un piquet de grève, non.
Pas du tout, voilà.
Avec des gens du STJV à interviewer les gens. Et à passer justement le sonore sur le non.
Voilà.
Donc cessez vos calomnies, Madame Bettina.
Non mais voilà, du coup on est vraiment en train de vivre une grosse crise sociale dans l'industrie. Donc quelque part ça tombe bien qu'on fasse cette table pour en parler. Il va y avoir énormément de choses à dire.
Elle est censée durer une heure et demie.
Une heure avec un quart d'heure de questions après.
Ouais, ça risque d'être court en vrai.
Ouais, ça va être compliqué.
Bien sûr, mais après voilà, les intervenants et intervenantes seront dispo pour continuer d'échanger après durant la suite de l'événement.
Et le STJV sera présent également avec un stand global disponible toute la journée.
C'est ça. Sauf Queen Apple qui, elle, a un podcast à enregistrer derrière. Mais sinon, ouais, les autres invités seront dispo. On a deux personnes du STJV et puis on a Black Magic qui maintenant travaille à 8-Bound Club, mais qui est un ancien de Motion Twin. Donc justement pour réfléchir un peu à des structures alternatives, notamment des scopes, ce genre de choses. Mmh. Et Vidu, qui est un tout petit studio qui s'appelle Empreinte Studio, mais qui eux aussi sont en scope. Ça peut être très intéressant de s'interroger sur justement des structures différentes.
Il y a aussi une autre table ronde intitulée... Pardon ?
La troisième.
Là, j'allais dire la meilleure, mais non, la meilleure, c'est sur accessibilité. Venez à celle sur accessibilité, c'est super important.
C'est la deuxième dans l'ordre.
C'est la deuxième dans l'ordre, oui.
C'est la deuxième dans l'ordre.
Jeux vidéo indépendants d'hier à aujourd'hui. Quel est le but de cette table ronde ?
En fait, dans les tables rondes, il y en a toujours une qui est davantage grand public, entre guillemets. Donc, celle qui va parler de travailler dans le jeu vidéo et celle qui va parler de l'accessibilité va davantage parler aux gens qui travaillent dans l'industrie, même si les invités vont quand même s'adresser à tout le monde. Mais forcément, ça va être plus parlant pour celles et ceux qui connaissent l'industrie de l'intérieur, quoi, et comment on fabrique un jeu. Mais il y a quand même une table ronde qui est un peu plus grand public à chaque fois. Et donc là, c'est celle-ci qui va essayer de retracer un petit peu justement l'histoire du jeu vidéo indépendant. Et peut-être qu'ils vont essayer de répondre à la question qu'on se posait tout à l'heure sur qu'est-ce qu'un jeu indé. Là, je fais encore un spoiler alerte, mais comme je le disais, il n'y a pas de vraie réponse. Enfin, il n'y a pas de consensus.
Il y a peut-être plusieurs réponses et plusieurs façons d'interpréter.
Il n'y a pas de consensus, ça c'est sûr.
Déjà que la question, c'est quoi un jeu vidéo ? Il n'y a pas forcément un vrai consensus, non, alors un jeu vidéo indé.
Ouais, donc là on a. Après, moi je continue de dérouler mon truc. Hein,
vas-y, mais... t'es là pour ça et on est très content que tu sois là.
Non, mais vas-y, continue, on te sortira de la salle au moment important. Il n'y a pas de souci.
Donc là, on a Julie Le Baron qui est journaliste, rédac-chef de Canard PC et chroniqueuse à Silence on Joue.
Et Anne Ripley, ouais.
On a Guillaume Montagnon qui est auteur, chercheur, qui vient d'ailleurs de sortir un livre biographique. J'ai oublié de comment il s'appelle le type, mais c'est le mec qui a fait Pong. et qui a cofondé Atari.
Je le trouverai pas.
Bushnell?
Ouais, Bushnell.
Nolan Bushnell, je crois.
Nolan Bushnell.
Je crois que c'est ça.
Voilà, c'est-à-dire que en fait, il est cet homme est totalement désagréable, mais il a une culture. Je parle de Romain, évidemment.
Je triche, j'ai que ça.
Et puis on a aussi Dollywood qui est streameuse.
Ok.
Et j'ai un trou. Vanessa Chicou qui est coprésidente de Afro Gameuse.
Ok.
Oui.
Ok, ok. J'avais une petite question. Tu parlais donc du nombre de jeux que vous avez sélectionnés cette année pour être présentés. 34 cette année.
Oui.
Qu'est-ce qui fait que c'est 34, pas 35, pas 42, pas...
On n'a plus de place.
Ok, c'est une question vraiment de logistique.
Et justement, le côté il n'y a plus de place, pourquoi 35 et pas 20, par exemple? Justement pour le côté place.
Oui, pour libérer de l'espace, justement, pour que tout le monde... Fin...
C'est dur.
C'est un calcul, c'est un arbitrage à faire de votre côté?
Ouais, bah en fait non, c'est juste que l'année dernière, on avait dit qu'on ne prenait pas plus d'exposants que l'année d'avant. Sauf qu'on l'a fait, on en a rajouté 10. Bon, cette année, du coup, là, on peut vraiment pas en faire plus. Et on sait déjà que les gens ont pas le temps de tout tester. On le sait, parce que l'événement dure qu'une journée. Donc, on va vraiment pas en rajouter plus. Et de toute façon, je répète, on n'a pas la place. On se pose la question d'en enlever, mais c'est déjà difficile d'en choisir 34 quand il y en a 60. Donc, si on devait en choisir moins, ça serait encore plus dur. Pour l'instant, on reste sur ce chiffre-là. Voilà, c'est exactement comme l'année dernière.
Ok. C'était en termes de circulation, d'espace pour tout voir en tant que public. Et effectivement, parce qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est la fréquentation.
Oui.
Il me semblait l'année dernière, c'était encore plus évidemment que la première année au CCVA. C'est le ressenti que j'avais.
C'était combien l'année dernière au final?
Non, du coup, on a fait deux éditions quasi identiques entre il y a 2 ans et l'année dernière. C'était à peu près la même fréquentation.
D'accord. Ouais. Et du coup, on était vers, en termes de nombre de personnes
environ
maximum
environ 850 sur la journée.
D'accord. Uniquement de visiteurs?
Ouais.
D'accord.
Donc, si tu rajoutes les exposants, les différents intervenants,
on est à pas loin de 1000 personnes en fait.
On est à 900, peut-être 950. Ouais, on peut rajouter une centaine de personnes, je pense. Nous, on est une vingtaine de bénévoles, il y a une vingtaine d'invités, et puis il y a tous les exposants. Ouais.
Ok. Ouais. Et en termes vraiment de capacité d'accueil, la salle, est-ce qu'elle est... vous avez de la marge encore par rapport
à
ça? Oui, voilà.
Non, on n'a pas de marge. On n'a pas de marge du tout. À chaque fois, il y a le gars de la sécu du CCVA qui est en sueur. Nous, on est là, non, mais on a compté, c'est bon. Et il nous dit, non, c'est pas bon, là.
Parce que en fait, je sais que l'année dernière... Alors, je n'ai pas remarqué il y a 2 ans, mais l'année dernière, je me souviens qu'en passant justement du bas vers le haut, j'avais remarqué notamment qu'il y avait pas mal de personnes où on disait, attendez, on attend que des gens s'en aillent pour que vous puissiez rentrer. Ce que je n'avais pas vu les années précédentes.
C'est un petit peu le ressenti que j'avais aussi. C'est pour ça que je pensais qu'il y avait plus de monde.
Mais en fait, non, c'est un... Oui, parce qu'en fait, la première année au CCVA, on s'est fait avoir sur le nombre de personnes qui sont venues, justement. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant d'affluence et on ne s'attendait pas à ce que le mec de la sécurité nous disent, là, il y a trop de gens. Du coup, l'année d'après, on s'est dit, OK, bah, faut qu'on compte les gens. Et c'est pour ça que, du coup, on en a fait ce truc-là qu'on n'avait pas fait la fois d'avant. Là, cette année, on va refaire pareil. Donc, on est obligé de compter les gens qui entrent dans la salle où il y a tous les exposants, parce que c'est là où il y a trop de monde. Et du coup, cette année, on essaye de mettre plus de choses au premier étage. On va voir ce que ça donne. Il faut qu'on arrive à répartir un peu plus les flux.
C'est vrai que sur la partie, en gros pour résumer, il y a la salle en haut où justement qui est la salle où il y a les tables rondes, etc. Et toute la partie en fait qui est devant cette salle-là, la partie d'accès, globalement, elle est relativement vide et il y avait peu de monde qui stationnait. Et donc c'était soit t'étais en bas, soit t'étais en haut, et du coup t'avais une très très grosse concentration. Dans les deux endroits, mais tu avais pas mal d'endroits, entre guillemets, moins exploités.
Tu avais des espaces de passage, simplement, et pas exploités, effectivement, et cette année, vous allez...
En fait, on se demande ce qu'on peut faire au premier. En fait, le souci qu'on a avec le premier étage, c'est qu'on ne peut pas mettre de stand de jeux vidéo. Parce que les raccordements électriques ne supporteraient pas qu'il y ait plusieurs PC. Donc, on ne peut pas mettre de jeux vidéo à l'étage. Par contre, là, cette année, on va mettre toutes les assos. Donc, il y en a 5, 4... Non, il y a 4 assos et le STJV. Donc on met tout ça au premier. Et il y a une artisane qui crée des jeux de société en bois qui vient aussi. Voilà, donc on espère que ça va faire que les gens iront un peu plus au premier. On met aussi le podcast au premier. Il y a aussi cet espace, ce nouvel espace qu'on crée cette année, qui nous a été remonté l'année dernière, que ça manquait justement. C'est un espace calme pour que les gens puissent chiller, se poser avec un peu plus de calme, parce que toute la salle avec les exposants est très bruyante. Mmh. Donc voilà, on va essayer de faire plus de trucs au premier, ouais.
Ok. Après, il y a une légère différence par rapport aux deux années précédentes, c'est que ça se passait les deux années précédentes en février.
Ouais.
C'est du coup, il y a une période de l'année où il fait légèrement plus frais, donc t'as un peu moins envie de sortir quand t'as besoin de prendre l'air, enfin, t'as besoin d'un peu d'espace. Là, il y aura aussi la possibilité, malgré tout, d'aller respirer sur la grande esplanade qui est devant la salle.
C'est vrai qu'on s'était habitué à cette petite date de février, vu que forcément, moi, je me souviendrai toujours de février où l'Indie Gamion, c'est le dernier événement avant la fin du monde.
En 2020
En 2020, ouais. C'était
quelques jours avant.
C'était le dernier événement avant la fin du monde. Ouais. On avait tous un masque Before It Was Cool. Mmh. c'était vraiment ça. Alors moi, je l'avais depuis longtemps, mais je triche. Mais c'est vrai qu'on est habitué à cette date de février. Là, c'est en mai. Il y a des avantages, des inconvénients à ce changement.
Bah écoute, on verra. Pour l'instant, on ne sait pas.
Mmh. C'est vrai que c'est un week-end qui fait suite à un jour férié. Enfin, ouais. Y a plein de...
C'est un week-end de pont, oui.
Ouais, c'est un week-end de pont, ça peut changer pas mal de choses aussi.
C'est ça, donc on verra. Mmh.
J'avais juste, d'aller vers la fin de cette émission, j'avais une question qui était, est-ce que vous avez une position particulière par rapport à l'utilisation de l'IA générative dans les jeux ? Et j'ai aussi une question à peu près équivalente sur l'utilisation Web3 blockchain, parce que c'est des questions en fait qui reviennent aussi souvent, notamment qui sont dans les considérations de joueurs, dans les considérations de consommateurs. Est-ce que vous avez une position par rapport à l'emploi de ces techniques-là?
Web3 blockchain, je sais que bon là je vais parler pour moi, mais je sais que l'équipe sera d'accord avec moi là-dessus. On n'est vraiment pas fan, on n'est pas très disons que le capitalisme c'est pas forcément ce qu'on kiffe. Du coup voilà ça nous parle pas. Donc si un jeu candidate avec ça, on le sélectionnerait pas parce que ça nous plairait pas trop. Et puis, pour ce qui est de l'IA, un jeu full IA, je pense que ça ne va pas nous plaire non plus, parce qu'on est certains à être artistes, notamment moi je suis illustratrice aussi. Du coup, en fait, il faut que l'IA soit un outil qui facilite le travail, mais que ce ne soit pas un outil qui remplace les travailleurs et travailleuses non plus. Voilà, c'est ce que j'en dirais personnellement.
Oui, c'était aussi le discours. On parlait, il y a une ou deux émissions des acteurs de doublage qui parlaient, ouais, notamment de l'IA générative.
Et de comment est-ce qu'ils pouvaient protéger leur voilà, voix et leur travail.
Et que le principe, en fait, ils se heurtaient à un mur parce que tout le monde disait, en fait, vous voulez pas du progrès, vous voulez pas de l'IA. Et en fait, eux, ils disent, on comprend que c'est un outil qui doit être utile, et comme n'importe quel outil, il doit être utile, mais il y a la protection aussi de la propriété intellectuelle, tout simplement. Le fait que quelqu'un qui a une... Par exemple, là, tu parlais de graphisme. Une IA va s'entraîner sur des dessins sur lesquels il n'a pas forcément le droit de piquer des choses pour générer des choses. Et c'est pareil pour les voix, c'est-à-dire que tu peux générer des phrases dites par des gens et leur piquer littéralement leur voix sans leur demander leur avis ou leur accord, ni même les compenser financièrement. Mmh. Donc c'est surtout par rapport à ça, pour rebondir, juste pour ajouter par rapport, ouais, au fait que l'IA doit rester être un outil et pas un instrument en fait qui vole tout simplement des choses pour les restituer autrement.
Et question vraiment très rapide, c'est une question que vous avez eu à vous poser cette année?
Non.
Ok.
Non.
Ok. Bettina, je vais te poser une question très compliquée. Très compliquée. Ouais. c'est quoi ton meilleur souvenir sur les cinq dernières éditions de l'Indie Game Lyon? Je te laisse un petit peu réfléchir.
Ouais.
Parce que c'est Romain qui va répondre tout de suite. Il ne le savait pas, il a regardé sa tête.
Quoi?
C'est quoi ton meilleur souvenir sur les cinq dernières éditions?
J'allais pas dire les quiz, évidemment.
Les quiz où tu arrives derrière moi à chaque fois, c'est ça?
On en reparlera cette année. Mais oui, ça c'est un élément effectivement dont on n'a pas parlé, c'est la fin de soirée.
Ouais, oui, c'est vrai. C'est vrai.
Qui est quand même
plus...
un minimum organisé de votre côté.
Oui. J'ai hâte du concert Brass,
ouais.
C'est ça? Concert cuivre, ça va être fun ça.
Ouais, c'est vrai que cette année, bah déjà l'année dernière, il y avait eu un petit set musical, mais normalement ça devait être 2080 qui devait jouer. Finalement, il était malade, donc il avait été remplacé au pied levé par.
Mais c'était super cool.
Par Rose Azerty, ouais.
Ça a été un beau bordel d'ailleurs.
Complètement.
C'était très bien. Très punk dans l'esprit, ça m'a
totalement.
Bien fait marrer.
Oui, c'est sorti de nulle part, je pense que ça a surpris pas mal de monde.
Ouais. Ça a surpris beaucoup de gens. Et du coup, là, cette année, on essaye de remettre ça. Donc, à nouveau, cette fois-ci, deux sets musicaux d'une demi-heure chacun. Donc, il y a un brass band qui fait des reprises de musique de jeux vidéo.
Il faut faire un quiz avec eux.
Il faut les inviter.
Faut qu'on les invite une fois.
Au quiz qu'on fait.
Au quiz qu'on fait. Et puis, oh là là, ce serait trop bien.
Et après, c'est Stégonaut qui nous fera part de ses productions, comment dire, ambiantes, atmosphériques. Voilà, il joue avec des consoles Nintendo.
Ok.
Donc, ce sera beaucoup plus chill, du coup.
Ok, ouais, pour redescendre tranquillement, ouais, et dire au revoir à tout le monde.
Tu sais qu'on peut faire des trucs sympas en Nintendo Core avec non mais si tu connais la scène, la démo scene, etc.
Oui.
Il y a
de
la musique, vénères,
ça peut être très 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 vénère et des trucs forcément. C'est pour ça que quand t'as dit Nintendo et t'as dit chill, fais
non,
attention,
mais lui, c'est
attention sur qui tu tombes.
Lui c'est chill.
Ok.
Et du coup avant ça, il y aura donc le traditionnel quiz.
Tout à fait, le quiz de Yannick qui alors la toute première édition c'était pas lui, mais depuis la deuxième c'est Yannick qui prépare son petit quiz. Je sais plus comment il l'a appelé l'année dernière, le super giga quiz.
Ouais, c'était un truc. Ouais.
Oui, voilà, over the top. Enfin, bon,
voilà. Tout ce que je sais, c'est que de façon très humble, je remets mon titre en jeu.
Et cette année.
Et t'as pas intérêt à gagner cette année, est-ce que tu vas m'emmerder encore pendant un an? Et ça, c'est hors de question.
Non, mais je te dis, normalement, je serai encore en train de discuter avec les gens d'accessibilité, donc a priori, je vais louper le début.
Non, mais je vais m'arranger avec quelqu'un pour que y ait une porte soit fermée.
Lupus non plus, il ne voudra pas que je gagne. Voilà.
Et cette année, on remercie nos partenaires locaux. Alors, il y a Trollune depuis le début, nous donne des lots pour le quiz. Et cette année, on a aussi Momy Lyon. Voilà, donc c'est la première année qu'ils nous donnent des lots, mais on est très contents.
Mmh. Ah bah, les...
Enfin, c'est la première année qu'on leur demande aussi. Hein, donc voilà,
oui.
Ça va. Oui.
Avant que tu donnes ton meilleur souvenir.
Ah, mais j'en ai pas.
Non, mais sinon, tu n'as que des bons souvenirs, du coup, va falloir en choisir. Hein. Et oui, mais je te donne.
Sinon, il va te demander le pire, attention. Il est comme ça.
Qui sait qui reviendra plus jamais. Non, avant, je te laisse encore réfléchir. Je te donne quand même mon meilleur souvenir.
Ouais.
Ça m'a toujours plu, que ça soit en tant que participant ou en tant qu'intervenant. Mais mon meilleur souvenir, c'est avec les gens de Redlock Studio, sur un jeu qui s'appelle Shattered. Et en fait, j'avais joué à la démo lors du premier. C'est le premier Indie Game Lyon. Hein. Ils sont venus les deux premiers, je crois.
Ouais, je sais plus exactement, mais oui, c'était un, deux ou trois.
Ouais.
Ouais, je sais plus.
En tout cas, ils sont venus deux fois d'affilée. Je crois que j'étais venu la première fois.
Oui.
Et en fait, je jouais à la démo. Et il y a un des devs qui me voit m'acharner sur une partie plateforme. Vraiment m'acharner. Et il me fait non mais c'est normal là, tu peux pas, il faudrait juste faudrait que tu récupères le pouvoir de. Ah non mais en fait t'as bourriné et donc t'es passé, donc t'as cassé le jeu. Ok, super.
C'était ton premier cassage de jeu.
Et de là a commencé une streak.
Une série ininterrompue.
Une série ininterrompue, et c'est pour ça que je tiens à présenter mes excuses pour Indivisible End, que j'ai cassé. Pour Blind Frontier, que j'ai cassé aussi.
Tu te souviens? T'étais parti te promener dans des endroits où t'étais pas normalement accessible.
Oui, avec la présentatrice du jeu qui me dit, mais quand tu t'es démerdé.
Mais qu'est-ce que tu fous là?
Et mon plus beau qui reste Dolos où j'ai pété l'ordi quand même. Donc voilà.
Bon, alors ça pour l'ordi quand même, bon, pas cool. Mais par contre pour les autres, c'est bien, tu fais un vrai QA, vrai playtest, tu vois. Tu vas vraiment poncer les recoins pour trouver les bugs.
Donc s'il y a des devs qui écoutent cette émission, ils vont mettre des barbelés pour pas que tu t'approches, on est d'accord?
Alors les gens de Dolos m'en ont pas trop voulu vu qu'ils m'ont accepté en playtester après. Donc ils m'en ont pas trop voulu là-dessus. Est-ce que tu as pu faire un petit tri?
Ben non, mais en vrai, les journées passent trop vite. Enfin, chaque édition passe trop vite. J'ai rien le temps de voir passer. Donc je ne sais pas quoi répondre. Mais mes meilleurs souvenirs sont en fait après les événements, quand les devs me remercient. Voilà. Mais du coup, c'est arrivé plusieurs fois, donc ça fait plusieurs meilleurs souvenirs.
Est-ce que moi, je pense que certains de mes meilleurs souvenirs, mes meilleurs moments, c'était pendant certaines tables rondes, certains échanges que j'ai pu entendre, je n'ai pas forcément de noms ou de moments en tête, mais est-ce qu'il n'y a pas peut-être aussi la satisfaction d'avoir monté justement des tables rondes avec des gens intéressants, d'avoir bien trouvé cette alchimie en fait.
Et qui ne se connaissaient pas forcément avant.
Aussi, ce genre de conflit, voilà, d'alchimie qui se produit.
Non, mais bien sûr, mais du coup, c'est tout au long de l'événement en fait. À chaque fois que je vois que tout se passe bien, que...
C'est peut-être ça finalement, c'est de ne pas avoir encore de moments où finalement ça ne s'est pas forcément...
c'est ça.
Bah, en fait, c'est pas forcément passé comme tu le voulais, ou que tu ne voulais pas, justement.
On fait un tel travail de préparation, on sélectionne nos invités, on sélectionne nos sujets, on sélectionne les exposants. Enfin, voilà, il y a tous les préparatifs. En plus, moi, je suis très... comment dire, enfin, je suis un peu obsessionnelle et très carré, très organisée.
Tu es organisatrice.
Voilà. Donc du coup, tout se passe hyper bien. Enfin, c'est juste, c'est pour ça que ta question, enfin,
j'ai une question de merde, mais c'est normal. C'est normal.
Ça a l'air naze de répondre. J'ai pas de meilleurs souvenirs parce que tout est trop bien. Mais en vrai, c'est vrai. Le souci qu'on a eu l'année dernière et qu'on a retenu pour cette année, c'est qu'on avait oublié de prendre des torchons pour la cuisine du stack. Enfin, voilà. On en est là.
Mais du coup, c'est une vraie réussite, c'est une vraie satisfaction. Mais même pour tout le monde, tu parles des devs qui te remercient. Je pense que moi, j'ai pas eu de ressenti, ni même discuté avec des gens qui étaient venus en tant que simple visiteur ou quoi que ce soit, qui ont pas passé un bon moment.
Ouais, je me souviens.
Je pense que ça aussi, j'imagine que pareil pour les intervenants, les différents intervenants que tu as pu avoir. Ouais. Des gens, effectivement, on va dire, qui ont un minimum de visibilité, qui sont un petit peu connus, d'autres gens qui sont peut-être des vrais experts dans leur domaine, mais qui ne sont pas forcément aussi médiatisés, et qui viennent un petit peu échanger sur des sujets. Je pense que je pense que c'est une vraie réussite.
C'est clair, on avait discuté avec Xerv.
On avait discuté avec
Xerv, il était ravi en disant que voilà, lui, pour le coup, est habitué d'être invité sur pas mal d'événements différents. Il a dit que c'était un événement très bien organisé, très chill, et même... des fois il était dans des meilleures conditions que des endroits qui ont beaucoup plus pignon sur rue, et ça je pense que c'est déjà une sacrée satisfaction en soi.
Tu parles d'Exer aussi, un souvenir, c'est pas mon meilleur souvenir du tout, hein, mais c'est un souvenir très rigolo.
T'as ressorti un truc.
C'est qu'à l'after, justement, où il y avait Exer,
Donc c'est l'année dernière, ça.
Il y a 2 ans.
Non, il y a 2 ans.
Il y a 2 ans, Exer, oui.
Ouais. Il faut savoir que du coup, une fois que l'événement est terminé, nous, on finit les trucs entamés, donc on finit notamment les fûts de bière, avant de tout ranger et quitter les lieux.
Faut pas gâcher.
Du coup, il y a un petit after, quoi, avec les invités, les bénévoles. Et il y a Exerve qui s'est mis à faire des roulades sur la scène.
En bon fan de Dark Souls. Exactement. Non, mais écoute,
normal.
Tout à fait normal. D'ailleurs, tu parles des bénévoles. Tu as dit tout à l'heure que c'était une vingtaine de bénévoles. J'imagine que l'équipe pour cette année, elle est clôturée, ou est-ce que vous avez toujours besoin de...
C'est en cours, j'attends des réponses. Alors je peux pas dire qu'on a besoin, parce que justement j'ai relancé des bénévoles de l'année dernière pour savoir s'ils sont dispo. Donc je veux pas faire un appel à bénévoles non plus.
D'accord, t'as pas besoin, vous êtes pas dans cette situation-là, mais...
Non, je pense pas. Mais en fait, là pour l'instant, j'attends vraiment juste de savoir si l'équipe du snack est dispo ou pas. Sinon, le reste, c'est OK.
Ça marche. Eh bien, merci beaucoup, Bettina.
Mais merci à vous.
On rappelle l'événement, l'Indie Game Lyon. C'est très bien. Je ne sais pas si vous avez entendu que ça soit Bettina ou nous, on est très fans.
C'est un petit peu le message général hein, de, voilà. de l'émission.
C'est très bien. C'est donc le 10 mai. Ce sera,
ça commence à quelle heure ?
Ce sera à 14h30. Jusqu'à 14h, pardon. Premier événement, pardon, première animation à 14h30, mais 14h.
Ouais, ouverture des portes à 14h.
Et donc ce sera au CCVA à Villeurbanne, 234 cours Émile Zola, métro Flachet, métro A. Venez, ce sera oui. vachement bien. Et ce sera tellement bien que nous, on sera sur place en plus.
En train de péter des jeux.
Alors, surtout moi. Et si on pète pas de jeux, c'est qu'on sera sur un truc coop et on sera en train de se taper dessus. Donc voilà.
On a déjà fait ce co-bus.
Voilà, bref, venez. Ce sera très bien. Et tiens, d'ailleurs aussi, juste avant de partir, on a oublié de parler de deux trucs. Le premier truc, c'est qu'on sera probablement à l'AFK le jeudi.
Ah oui, c'est vrai. Oui. Ah oui,
et que le vendredi, il y a des choses aussi oui. liées à l'Indie Game Lyon. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Oh. Je suis désolé, c'est à la toute fin et j'en avais
zappé. Tu as 42 secondes.
Non, mais très vite. Le vendredi soir, c'est la petite nouveauté de cette année. Donc, la veille du salon, on met en place trois petites conférences qui sont des post-mortem. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire dans le jargon de jeux vidéo, c'est juste un bilan après la sortie d'un jeu. C'est pas, personne n'est mort, rassurez-vous. C'est juste ouais, pour faire un peu le point sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a amélioré, etc., etc. Donc c'est des conférences qui s'adressent un petit peu plus aux professionnels, parce que c'est vraiment les devs qui vont parler du développement des jeux. C'est le vendredi soir, ouverture des portes à 18h30, les conférences commencent à 19h, il y en aura trois. C'est sur les jeux Linkito, Cloudy Valley et Time Rift. Voilà. C'est à prix libre aussi.
Ce sera à quel endroit ?
C'est au CCVA aussi, dans la salle de spectacle au premier étage.
Ça okay. marche. Très bien. Eh bien, je te remercie d'être revenu.
Merci, je suis très contente d'être venue.
Et pour tout le monde, on se dit pas à la semaine prochaine parce que c'est le 1er mai et que c'est la fête des droits des travailleurs. Mais on se revoit le jeudi 8 mai où ce sera pour le coup.
La suite de l'AFK pour nous.
On sera juste après l'AFK. Voilà. On viendra ici. Quoi.
Ah ouais.
On passera avant et puis on ira ensuite.
Mais voilà, aussi. Donc. Non, bah, on est des grands globetrotters.
À l'AFK, il y a le quiz de Mathis, mais du coup, tu vas peut-être le rater.
Ah là là. Il n'y aura peut-être pas d'émission lui, mais on verra, d'accord
hein. Très bien.
On verra.
À bientôt en tout cas.
À bientôt,
merci à vous deux
bonne
pour l'émission.
Voilà. Et puis la prochaine fois qu'on se voit de visu tous, ce sera à l'Indie Game Lyon.
Le 10 mai, oui. On vous attend.
Salut.
Salut, bonne soirée.
Bonne soirée.